Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Frédéric Pellion pour cette soirée du séminaire École. Frédéric Pellion, qui est psychanalyste à Paris, et Albert Nguyen, psychanalyste à Bordeaux, qu'on remercie chaleureusement d'avoir fait tout ce voyage. Je passe la parole à Frédéric, qui va nous parler, le titre de ton exposé, l'inconscient, une puissance de refus, point d'interrogation. Je te passe la parole.
Il est d'une importance capitale que le mouvement des étudiants, en repoussant toute affirmation prématurée, oppose et maintienne une puissance de refus capable, croyons-nous, d'ouvrir un avenir. Ça, c'est Maurice Blanchot, dans un tract du Comité d'action étudiant écrivain, daté du 8 mai 1968. Il en appelle donc à une puissance de refus. Or, il se trouve que Lacan, une fois n'est pas coutume, a signé ce tract, quoiqu'il soit rédigé d'une autre main, et quoiqu'il soit soutenu par un collectif de non-analystes. Alors, ma courte série de remarques tiendra compte de cette approbation de Lacan pour tenter de faire le tri entre ce qui reste actuel ou non dans la phrase qui nous occupe cette année, « L'inconscient, c'est la politique ». L'inconscient, c'est la politique, ça n'est pas « la politique, c'est l'inconscient ». Nous sentons immédiatement que les deux propositions ne sont pas équivalentes. D'ailleurs, la seconde rebute un peu l'entendement. Mais en quoi diffère-t-elle? Cette non-équivalence des deux propositions indique ce qu'on appelle en mathématiques une antisymétrie. L'antisymétrie est un des caractères des relations d'ordre. On pourrait donc écrire la phrase de Lacan ainsi, inconscient, inférieur ou égal à politique, ou bien inconscient inclus dans politique. La phrase de Lacan voudrait donc dire que l'inconscient est un cas particulier ou une occurrence parmi d'autres de la politique. Lacan dirait donc, une fois de plus, le contraire du lieu commun qui, à partir du constat qu'il y a des manifestations de l'inconscient dans la politique, voire chez les hommes politiques, fait le fond de commerce des analystes à la remorque de l'actualité. Alors, suivons donc cette piste. Vous savez que les tentatives d'application politique de la psychanalyse ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un succès. Prenons l'exemple simplement de Freud. Il écrit en 1907 et 1908 deux textes sur les éclaircissements sexuels apportés aux enfants et la morale sexuelle culturelle et la nervosité moderne, qui inaugure un genre nouveau, celui des interventions de la psychanalyse dans le débat public. Mais il semble, 30 ans plus tard, que Freud considère l'entreprise comme aussi dérisoire que celle d'une psychanalyse prophylactique. Le patient entend bien le message, mais ce qui manque, c'est l'écho. La politique, souvent décrite comme une sphère, a en effet assez d'élasticité pour se laisser déformer sans changer de nature. Elle partage d'ailleurs ce trait avec le moi, et Freud, dans le texte que je viens de citer, analyse avec fin et analyse sans fin, parle des résistances du moi
dans les mêmes termes d'élasticité.
De fait, la politique est étroitement liée avec la croyance en un univers du discours, comme dit Lacan. Ou peut-être plus exactement, l'action politique promet de faire consister un tel univers. Là-dessus, relire Freud encore, son analyse du bolchevisme, par exemple, dans Une vision du monde, et aussi le délicieux résumé par Lacan dans Radiophonie de ses démêlés avec les communistes. Quoi qu'il en soit, dans les complexes familiaux, Lacan note ceci. À mesure qu'on découvre des formes plus primitives de la famille, elles s'élargissent en groupements qui, comme le clan, peuvent aussi être considérés comme politiques. Politique, comme suite d'un élargissement, semble ici avoir un sens opposé au précédent, celui de la sphère. J'y reviendrai, mais on pourrait, pour distinguer ces deux sens opposés, la politique comme sphère et la politique comme élargissement, employer l'article au masculin, le plutôt que le la, de la phrase de 1967, l'inconscient, c'est la politique. De fait, l'agrégation au clan est affaire de famille, mais pas seulement. On peut rejoindre le clan de l'extérieur à condition d'adhérer à ses règles et à ses valeurs, qui sont la même chose que ce que Freud, suivant la même progression centrifuge que celle de Lacan d'ailleurs, définit comme idéal du moi, idéal commun d'une famille, d'une classe, d'une nation. Le lycéen, lui, enfin l'étudiant du comité d'action étudiant-écrivain de Blanchot, lui, il regarde au dehors, dans le monde réel. Ça, c'est une phrase bien connue. Il ne regarde rien encore défini, il regarde seulement dans le monde réel. Freud écrit « in » en allemand. Plus tard, peut-être, notre étudiant prendra-t-il une idée de ce qu'il aura regardé. Mais en attendant, l'inconscient se présente à lui comme extériorité, comme plus simple, qui désenveloppe l'univers du discours. Et cette extériorisation va de pair avec celle de la sexualité, laquelle, en retour, encourage la filia, sans laquelle pas de politique envisageable. Vous savez que le contrôle politique de la sexualité est de tout temps. Les tours et les détours de ce contrôle ont été dénoncés en leur temps par Michel Foucault avec une précision que peu de choses brouillent, sauf peut-être son fantasme à Michel Foucault, pour ne pas dire plus, d'un dispositif qui serait agencé exprès, d'un dispositif concerté. Lacan, on le sait, a préféré discours à dispositif. Le discours, je le situe du lien social à quoi se soumettent les corps qui, ce discours, l'habitent. En un seul mot. L-A-B-I-T-E-M-T. Le jeu de mots reprend l'idée de Martin Heidegger du langage habitat, certes, mais elle lui apporte un correctif précis. Si, pour Heidegger, le langage est la maison de l'être, Lacan lui soutient que l'être n'est qu'un effet de sens et qu'il n'y a dans cette maison rien d'autre que des corps. Des corps dans lesquels le discours ordonne la distribution du plaisir, la jouissance relevant, selon lui, de la limite intime à cette distribution. En ce sens que l'époque s'expose si souvent à la version mâle, M-A-L, de la jouissance, témoigne autant, sinon plus, d'une érosion de la fonction discursive en tant que telle, que du triomphe d'un discours particulier. fût-ce celui du capitalisme ou de la science, qui justement, entre autres pour leur structure non oppositive, n'en sont pas un discours. Sidi Ascofaré, par exemple, a développé ici même, en avril 2015, cette définition par Lacan du discours tire la corde du côté de la culture freudienne, en tant que celle-ci est essentiellement écartelée entre plusieurs discours opposables qui n'ont en commun que d'être tous fondés sur une impossibilité. Alors je rappelle à ce propos, après Patricia Dahan, lors de la première séance de ce séminaire, comment Lacan définit la politique dans la suite de la phrase qui nous occupe cette année. La conscience et la politique, ce qui lie les hommes entre eux, ce qui les oppose. Bien sûr, ce qui les oppose, les hommes les lie aussi. Et en ce sens, opposition et ségrégation se contredisent. Alors, faudrait-il dire un discours égale une politique ? Point d'interrogation. Colette Soler a donné en 2015 un texte où elle montre comment les catégories lacaniennes renouvellent l'idéologie sexuelle freudienne. Le joli titre suivant, « Nouvelle économie sexuelle ». Ce titre réfère, obliquement, à la nouvelle économie politique dont les bases furent posées en 1615 tout de même, et que, après Marx, après Lénine, les économistes libéraux d'aujourd'hui redécouvrent. Il me semble que, ce faisant, en choisissant ce titre, elle indique aussi qu'elle estime que ce renouvellement de l'idéologie sexuelle freudienne, a à lui seul une portée politique. À cet endroit sont peut-être nécessaires quelques remarques sur l'économie, cette guise du réel désignée, mais peu explorée par Freud, qui le dit d'ailleurs lui-même, qu'elle est peu explorée par lui. Alors pour condenser au maximum ces remarques sur l'économie, je vous invite à suivre la chaîne signifiante dont Giorgio Agamben, explorant dans Qu'est-ce qu'un dispositif, l'archéologie du dispositif foucauldien, retisse la trace. Dispositif, donc Agamben remonte, dispositif, positivité, économie. Cette trace, donc, remonte jusqu'à l'oïkos grec, la racine de l'économie, qui, avec le koinos, institue comme opposé l'économie, le domestique, et le politique, le public. Mais peut-être, au fond, est-il plus juste de les penser, oïkos et koinos, avec Jean-Pierre Vernant, comme, non pas opposés, mais comme extimes l'une à l'autre, en continuité l'une avec l'autre, selon les figures qui nous sont familières du 8 intérieur et de la bande de Mobius, par exemple. Pour preuve de cela, entre autres, Vernant souligne l'implantation de l'omphalos, qui est le foyer du foyer, puisque c'est le lieu du culte à Hestia, au centre de l'espace public, à Delphes. Quoi qu'il en soit, la relation entre ces deux termes, oikos, koinos, dessine l'épure du revirement, selon le mot de Dionysos, qu'opère peut-être Lacan entre économie et politique. Revirement, rebroussement, retournement, tout terme qu'on trouve dans la leçon du 13 janvier 65, par exemple, du séminaire « Problèmes cruciaux ». Tout terme désignant le point où la demande change de sens, où la pulsion trouve son éconduction sociale et où s'ancre, pour se substituer à la freudienne, une économie lacanienne. En effet, là où l'économie freudienne se défaussait en quelque sorte sur la continuité de la nature et s'en remettait au progrès des sciences du même nom, la seconde, l'économie lacanienne, renvoie au réel et en particulier à ces deux aspects alternants de répétition et de rencontre, ainsi qu'à leur pouvoir causant. Peut-être, le 10 mai 1967, Lacan parle-t-il de la politique au féminin, parce que la politique, comme les moires ou les normes dans les mythologies nordiques, la politique est une figure du destin et le premier ressort de l'effet tragique. Pourtant, il y a un politique au masculin, on pourrait dire, qui est le contraire du destin. Lacan inscrit d'ailleurs sa formule « l'inconscient, c'est la politique » en regard de celle faussement attribuée par Freud à Napoléon, « l'anatomie, c'est le destin ». Le politique, dès qu'il commence à être réfléchi en tant que tel, échappe en effet à la fatalité du savoir antérieur, fatalité qui renferme tout épistémé sur une nécessité. Les vertus politiques ne s'enseignent pas, pas plus d'ailleurs que les vertus domestiques. Ainsi conclut le Ménon, repris par Lacan une nouvelle fois à la rentrée de son séminaire de l'année suivante, en novembre 67. Le politique n'est pas un savoir. Et comme la psychanalyse, le politique prive les acteurs dont il sollicite la responsabilité de cette médiation du savoir. Vous connaissez la formule de Lacan, Dieu est inconscient, qui est selon lui la véritable formule de l'athéisme. Alors, bien sûr, si l'inconscience est la politique, il peut sembler aisé de faire la somme logique des deux propositions pour en déduire « Dieu, c'est la politique ». C'est d'ailleurs ce que semble vérifier aujourd'hui les heurts croissants entre le système Dieu et les régimes qui considèrent qu'il suffit de l'équation laïque égale athée ou, à la rigueur, et sans regarder la contradiction plus avant, laïque égale croyance privée, pour évacuer le problème de la religion. Or, si nous avons appris, depuis Lacan, une chose nouvelle en matière politique, c'est que la religion s'allie volontiers avec le capitalisme et avec la science pour produire de nouvelles dictatures, qui sont des variantes, encore une fois, de la non-opposabilité dont je parlais plus haut, des idéologies de la suppression du sujet. Au-delà des mœurs, il en va en effet d'un affrontement entre deux modes d'existence du sujet. L'existence du particulier qui objecte à l'universel de l'intérieur et se faisant on renforce la consistance, c'est le signe noir dans l'ensemble des signes blancs, c'est le mécréant dans l'ouma. Existence du singulier qui, l'universel, la contredit du dehors. L'indifférence de Lacan comme de Freud en matière de politique n'est donc pas simplement une question de goût et ne se résume pas non plus à un privilège que l'un comme l'autre accorderait à l'individu pour le collectif. C'est plutôt, me semble-t-il, la seule position qui maintienne ouvert l'écart entre l'inconscient et l'analysable, qui est la même chose que celui entre le singulier et le particulier, et où se tient la possibilité de l'acte spécifiquement psychanalytique. Car c'est là, dans cet écart entre l'inconscient et l'analysable, qu'il y a chance qu'il y ait petit a. Encore faut-il disposer d'un concept de l'inconscient qui ménage cet écart. C'est là, il me semble, que peut peut-être nous aider la puissance de refus de Blanchot. Car si puissance ne dit pas encore ce qui sera refusé, le mot puissance dit déjà que le refus peut se multiplier avec lui-même. Ainsi, à l'endroit de la chaîne signifiante, le sujet peut se compter comme objection, comme l'idée, comme moins ça, etc., etc. Mais dès lors qu'on ne se contente plus des effets de signifier pour le définir, on touche à la jouissance spécifique du refus. Nous avons finalement, par la psychanalyse, les éléments d'une morale, les éléments d'une économie. D'une morale à entendre au sens de la morale par provision de Descartes, c'est-à-dire d'une attitude d'attente qui ouvre l'avenir, comme dit Blanchot, et qui réserve la possibilité de l'acte. Nous avons aussi, il me semble, les éléments d'une économie, à entendre au sens d'une puissance de ne pas refuser ce que toute institution comporte de dispositif au sens originel dégagé par Agamben d'une positivité surgie de nulle part. Entre cette attente et cette positivité, nous arrivons à la valeur, ou plutôt à la nécessaire prévention d'une confusion sur la valeur. Cette confusion agit, par exemple, selon Paul Janlion, dans la définition par Marx du capital. En effet, selon Janlion, c'est son inexistence à sa place, à la place qu'il faudrait, c'est son expropriation première, d'avant toute appropriation, d'avant toute accumulation, qui est le point qui fait consister le capital. À cet égard, si on suit ce fil, le capital, comme le phallus, n'existe qu'en tant qu'il est demandable, et plus précisément, comme limite du demandable. De même que le phallus est une chose en attente de symbolisation, le dispositif auquel le sujet est attenant est en attente non pas de transformation, non pas de révolution, mais de symbolisation. Le deuil du phallus, qui est un dénom de la castration, si on fait de la castration non pas un destin, mais le terme d'une recherche, aboutit à virer la valeur du demandable à d'autres comptes, ceux du non-demandable, puis de l'indemandable. Ce qui implique aussi l'objet pitable, avec la différence que la symbolisation du phallus aboutit à un contingent, et celle de l'objet à la présentation d'un reste démystifié. C'est ainsi, il me semble, que la phrase « l'inconscient, c'est la politique » se continue, à 10 ans d'intervalle, par le souhait de Lacan que la psychanalyse devienne une pratique sans valeur. Je cite la séance du 17 avril 1977 du séminaire. Sans valeur, qui est ce qu'il faut pour la sublimation. Voilà, je termine et je récapitule. Lacan ne dit donc pas « la psychanalyse, c'est la politique », mais « l'inconscient, c'est la politique ». De même que la politique existe à l'économie, on l'a vu, de même l'inconscient, si l'on en croit Lacan toujours, ne peut être correctement situé que d'exister à un discours, à tout discours, y compris au discours de l'ataniste, qui est discours causé par l'inconscient, épuré de celui-ci peut-être, mais qui n'est en aucun cas discours de l'inconscient. Encore faut-il qu'il y ait discours. Commençons donc par cesser d'affronter les discours les uns aux autres et restons attentifs à ce que chacun d'eux véhicule d'inconscient. D'autant qu'on peut rappeler que la liste des quatre discours établie par Lacan, comme celle d'ailleurs de ses objets petit a, n'est pas, de son propre aveu, limitative, comme il le dit à Baltimore en 75. Voilà.
Merci.